Chapitre 8 à 11. La gloire s'en va. La sixième année de la transportation, soit environ un an après la première vision, une nouvelle révélation est faite à Ézéchiel. La gloire de l'Éternel, apparue au prophète en Chaldée, était de fait toujours dans le temple de Jérusalem. Chapitre 8, verset 4. Elle va le quitter. Quelles en sont les raisons et comment cela s'effectue-t-il? Chapitre 8. Pourquoi la gloire s'en ira-t-elle? Ézéchiel, emmené dans les visions de Dieu à Jérusalem, découvre ce que l'Éternel y voyait, même si les hommes faisaient tout pour le cacher. Cinq raisons successives nous sont données pour le jugement qui va fondre sur la ville sainte. À l'entrée de la porte intérieure, vers le nord, se trouvait l'idole de jalousie qui provoque à la jalousie. Et la même était la gloire du Dieu d'Israël. Cette idole introduite dans le temple par Manassé, 2 Chroniques 33 verset 7, avait été enlevée par le roi lorsqu'il s'était repenti, verset 15, mais sans doute réinstallée plus tard. Manifestation publique de l'idolâtrie en Israël, dont le cœur s'était détourné de l'Éternel. Mais il y avait bien pire. Perçant un trou dans le mur du temple et ouvrant une porte secrète, le prophète pénètre dans un cabinet d'images dont les murs portaient toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes exécrables. Si le culte de Baal et d'Astarté était venu de Syrie, celui-ci venait d'Égypte. Il était pratiqué par 70 d'entre les anciens, rappelant le nombre de ceux qui avaient contemplé avec Moïse la gloire du Dieu d'Israël. Exode 24, verset 9. Au milieu d'eux se trouvait le fils de Chaphan, ce Chaphan qui, avec Ilkija, avait retrouvé le livre de la loi au temps de Josias. 2 Chroniques 34, verset 15. Avec quelle joie le père l'avait lu aux oreilles du roi. Et maintenant, dans les ténèbres, le fils faisait monter une épaisse nuée d'encens aux idoles corrompues des païens. Ces gens disaient « L'Éternel ne nous voit pas », ignorant les chérubins et les roues, plein Dieu. À la porte de la maison de l'Éternel, un autre culte, phénicien celui-là, s'était installé. Celui de Tammuz, l'Adonis des Grecs, culte corrompu s'il en fut. Enfin, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, 25 hommes, le dos tourné vers le temple, leur face vers l'Orient, se prosternaient devant le soleil. Culte venu de la région qui deviendra la Perse, l'adoration du soleil s'était aussi introduite à Jérusalem. Qui la pratiquait, sinon les 24 sacrificateurs, un pour chaque classe, souverain sacrificateur à leur tête, 25 hommes qui tournaient le dos au temple et se prosternaient devant ce qui était créé. Une cinquième raison est invoquée au verset 17. Ils remplissent le pays de violence. La violence et la corruption, depuis l'époque de Noé, avaient rempli la terre. Nous étonnerons-nous outre mesure de la décadence d'Israël? Et qu'en est-il de trop de jeunes parmi nous? On a joui des privilèges chrétiens, au foyer, dans le rassemblement, dans la maison de Dieu, mais le cœur n'a pas été changé. La nouvelle naissance n'a pas eu lieu. On s'est contenté d'une connaissance intellectuelle de la vérité. Et voici qu'une idole s'introduit dans la vie. Une affection contraire aux pensées de Dieu, une théorie philosophique ou religieuse, une amitié déplacée ou tant d'autres choses. Ceux qui nous observent s'en rendent plus ou moins compte. Quoi qu'il en soit, la place du Seigneur est prise, et petit à petit, le cœur s'éloigne de lui. Mais il y a pire. Dans ce cœur qui ne lui donne plus la première place, que de pensées impures. Non seulement celles qui surgissent occasionnellement dans l'esprit et qu'il faut se hâter de repousser en se concentrant sur autre chose, Philippiens 4, verset 8 à 10, mais celles que l'on caresse, que l'on aime, que l'on tourne et retourne. Personne ne le sait, personne ne le voit. Tout a lieu dans le secret et dans l'obscurité. Inconsciemment, on répète, l'Éternel ne nous voit pas. Et, Dans la chambre secrète de l'âme, dans les ténèbres, l'imagination corrompue travaille, et voici toutes sortes de figures tracées sur le mur tout autour. La corruption ne reste pas intérieure, elle se traduit ensuite en actes, et l'on peut tomber très bas, sans même s'en être rendu compte. Ne disons pas que ces choses n'arrivent pas ou sont très rares. Si chacun ne veille pas sur son propre cœur, il peut, dans une mesure plus ou moins grande, se laisser entraîner dans cette même voie. Que dire aussi de la violence qui si souvent se fait jour? Pourtant, que d'avertissements dans les Épîtres. Les œuvres de la chair sont les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues. Renoncez à toutes ces choses, colère, courroux, malice, injures, paroles honteuses venant de votre bouche. Si nous n'y prenons pas garde, de tels errements se manifestent même entre croyants. Faut-il s'étonner alors, surtout quand il n'y a jamais eu la vie de Dieu, que l'intérêt pour les choses d'en haut se refroidisse et s'estompe? Et dans le cœur où Christ n'a jamais été reçu, n'y a-t-il pas ce qui correspond au départ de la gloire? On devient indifférent ou opposé. Dans sa grâce, Dieu intervient pour appeler encore au repentir, ramener celui qui s'est égaré. Mais répond-on toujours? Chapitre 9. Un résidu. À Jérusalem, tous ne participaient pas à la corruption ambiante. Certains s'humiliaient de cet état de choses et gémissaient à cause de toutes les abominations qui se commettaient dans la ville. Allait-il être détruit comme les autres? C'est le problème auquel répond le chapitre 9. Dans la vision, Ézéchiel voit 6 hommes armés s'approcher de la ville par le nord, chacun avec son instrument de destruction dans sa main. Tout va être détruit. Mais, grâce immense de Dieu, il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, avec un encrier d'écrivain à ses reins. Figure bien précise du Seigneur Jésus, un tel homme va marquer au front d'une lettre T, ou Tau, forme primitive de la croix, tous ceux qui soupirent et gémissent à cause du mal qui les entoure. Après lui seulement, les 6 hommes armés exécuteront le jugement, n'épargnant personne, vieillard, jeune homme, vierge, petits-enfants, femmes. Mais ils n'approcheront d'aucun de ceux qui portent la marque. Dans la vision, le jugement s'exécute. Il commence par les anciens qui étaient devant la maison, dans le sanctuaire. 1 Pierre 4, verset 17. Mais le résidu est épargné. Le principe du résidu se retrouve maintes fois dans la parole de Dieu. Déjà, lors du veau d'or, tous ceux qui cherchaient l'Éternel sortirent vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Exode 33, verset 7. La majorité du peuple restait chacun à l'entrée de sa tente et suivait des yeux ceux qui se rendaient au lieu où se trouvait la gloire de l'Éternel. Résidu fidèle, sortant vers lui hors du camp. Voir Hébreux 13, verset 13. Malachie nous décrit l'état dans lequel était tombé le peuple remonté de la captivité. Mais au milieu d'eux, il distingue ceux qui craignent l'Éternel, qui ont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel a été attentif. Ils seront à moi, mon trésor particulier. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Malachie 3, versets 16 et 17. Quelques-uns, malgré tout le mal qui les entourait, s'encourageaient mutuellement et parlaient du Seigneur, comme le feront quelques siècles plus tard un Zacharie et une Élisabeth, une Anne, un Siméon, quand Jésus viendra sur la terre. À travers l'histoire de l'Église, nous voyons dans les 4 dernières épîtres d'Apocalypse 2 et 3 que lorsque l'ensemble s'est détourné, quelques-uns restent fidèles. Les autres qui sont à Thyatire, les quelques noms de Sardes, celui qui ouvre la porte au Seigneur à Laodicée, et enfin le résidu collectif de Philadelphie. Tel est aussi l'enseignement de 2 Timothée 2, lorsque la maison de Dieu responsable sur la terre est devenue une grande maison contenant des vases à honneur et des vases à déshonneur. Pour être un vase à honneur sanctifié, utile au maître, il faut se purifier de ceux qui se détournent, et avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, s'attachèrent à lui qui reste le centre de rassemblement, même de deux ou trois. La gloire s'en va. Ézéchiel 8, verset 4 nous dit « Voici, là était la gloire du Dieu d'Israël. » Au plus beau jour de Salomon, 2 Chroniques 5, verset 14, cette nuée avait rempli le temple lors de son inauguration. Malgré le déclin du grand roi, malgré l'idolâtrie d'Akab, de Jézabel et d'Athalie, malgré les péchés terribles de Manassé, la présence de Dieu était restée là. Maintenant, la coupe était comble, et lentement, la gloire allait se retirer. Au chapitre 9, verset 3 et chapitre 10, verset 4, s'élevant de dessus le chérubin du sanctuaire, elle vient sur le seuil de la maison. Puis, au chapitre 10, verset 18, elle sort de dessus le seuil et s'arrête à l'entrée de la porte orientale. Mais là encore, tout était iniquité et mal. Chapitre 11, verset 2. Les princes du peuple donnaient de mauvais conseils et cherchaient le secours loin de Dieu. La gloire ne peut rester, même sur le seuil. Au chapitre 11, verset 23, elle monte du milieu de la ville et s'en va sur la montagne à l'Orient, la montagne des Oliviers. Dans la personne du Seigneur Jésus, la gloire reviendra un jour à Jérusalem. La foule l'acclamera. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On coupera les rameaux des arbres, on étendra les vêtements sur le chemin, mais que fera Jésus? Et quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle, disant, « Si tu eusses connu, toi aussi, au moins en cette tienne journée, les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées devant tes yeux. » Luc 19, verset 42. Il était le resplendissement de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa substance. Mais quand il est entré dans sa maison, dans le temple même, après avoir promené ses regards de tous côtés, sur tout, comme le soir était déjà venu, il sortit. Marc 11, verset 11. Aucun cœur n'était disposé à le recevoir. Aucune maison ne voulait l'accueillir. À Béthanie, il s'en va vers le petit résidu derrière la montagne des Oliviers où quelques cœurs l'aiment. Du même lieu, il s'élèvera dans le ciel après avoir béni ses disciples. Sur la même montagne, il reviendra au jour de son triomphe. Zacharie 14, verset 4. Et la gloire, longtemps absente, retournera dans le temple nouveau. Ézéchiel 43, versets 1 à 6. Destruction de Jérusalem. La neuvième année de la transportation, au dixième mois, l'Éternel avertit Ézéchiel qu'en ce propre jour, le roi de Babylone s'approche de Jérusalem. Chapitre 24, verset 2. Le prophète transmet la nouvelle au peuple sans grand succès. Pour faire plus d'impression à ceux qui l'entouraient, l'Éternel l'avertit que sa femme va mourir. Il ne devra pas la pleurer. Le peuple s'en étonne et le prophète de leur expliquer que, si selon le commandement de l'Éternel il ne pleure pas sa femme, eux, de même, ne pourront pas mener deuil sur ce qui était encore l'orgueil de leur force, le désir de leurs yeux et l'affection de leur âme, ce temple de Jérusalem dont ils étaient si fiers. Ils ne reverraient pas non plus leurs fils et leurs filles laissés en arrière au pays. Les enfants seraient massacrés et leurs parents ne pourraient les pleurer. Ils se consumeraient dans leurs iniquités et gémiraient l'un vis-à-vis de l'autre. Trois ans plus tard, un réchappé de Jérusalem vient vers le prophète, chapitre 33, verset 21, la douzième année de la transportation, et lui annonce « La ville est frappée ». C'était fini. Le jugement annoncé d'une façon si vive 6 ans auparavant était exécuté. Le temple était détruit, la ville brûlée et les murailles abattues. Reprenant l'application faite tout à l'heure aux jeunes parmi nous, n'est-il pas douloureux de penser au sort de ceux qui, après avoir beaucoup reçu, se sont détournés, ont abandonné le chemin du Seigneur et sur lesquels, s'ils ne se repentent pas, le châtiment viendra? La gloire s'en va. Dieu attend encore. Il frappe, il appelle. Mais si l'on s'obstine à refuser, si l'on ne veut pas venir à Christ pour avoir la vie, il ne reste plus que la mort, et, après la mort, le jugement. Nous en avons vécu de tragiques exemples.